Jésus n'a jamais présenté la vie chrétienne autrement que remplie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va emmener non pas une espèce de zen attitude ou un domaine dans lequel je vais planer, mais le Saint-Esprit va m'introduire dans une vie de victoire. Victoire sur quoi ? Concrètement, parce que la vie chrétienne, c'est du concret, c'est du pratique, c'est tous les jours. Et j'ai besoin de vivre dans ces dimensions de victoire, j'ai besoin de remporter des victoires par la grâce de Dieu sur tout ce qui a triomphé de moi. Alors on reprend ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, cet impératif de Jésus, et on va voir pourquoi Jésus a insisté sur ce point, pourquoi il ne leur a pas permis de quitter Jérusalem immédiatement. Actes, chapitre 1er, verset 8. Jésus dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et là, Jésus va amener un ordre logique, parce que Dieu est logique, Dieu est structuré, il est organisé, il ne travaille pas au pif, il ne travaille pas au hasard, il travaille de façon logique et structurée. Et Jésus donne cet ordre clair, « Vous serez mes témoins », cet ordre d'action, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. On peut considérer Jérusalem, Judée, Samarie de façon géographique, mais ce matin, je veux le considérer de façon spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, aujourd'hui, en 2018 ? Tu ne peux pas faire l'impasse sur le Saint-Esprit parce qu'il va te rendre vainqueur à Jérusalem. Ça veut dire quoi pour moi ? Alors, ce qui m'a aidé à comprendre ce que ça voulait dire pour chacun d'entre nous, c'est ensuite les versets 12 à 14, si vous voulez bien descendre. Et là, vous allez voir que dans la parole de Dieu, rien n'est anodin. Ce ne sont pas des détails, ce sont juste des points qui sont plus précis que d'autres, mais qui ont toute leur utilité. Ils retournèrent, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et ce qui m'a interpellé, c'est cette liste de noms qu'il y a derrière. Pourquoi le Seigneur, l'Esprit, lorsqu'il a inspiré l'évangéliste Luc, qui écrit ce livre des Actes des Apôtres, pourquoi le Seigneur a inspiré Luc d'écrire ces noms qui sont ici ? Alors, il n'y a pas tout le monde, mais il en a donné quelques-uns. Pourquoi eux et pas d'autres ? C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comprendre que les gens qui sont nommés, qui sont cités ici, ont tous un souvenir très douloureux de Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu de leur échec. Jérusalem, c'est le lieu de leur déception. Jérusalem, c'est le lieu où ça ne s'est pas passé comme ils auraient voulu que ça se passe. C'est le lieu des espoirs déçus. C'est le lieu où des rêves se sont brisés. C'est le lieu où ils ont réalisé leurs propres incapacités. C'est le lieu où ils ont vécu des choses traumatisantes qui font que lorsqu'on leur dit « Alors, on va faire un tour à Jérusalem, je veux bien aller partout », mais pas à Jérusalem. Et peut-être pour vous ce matin, il y a peut-être certains noms de villes, certains noms de lieux, si on les évoquait, qui vous feraient un nœud à l'estomac et vous diriez « Ah non, je veux bien aller partout, mais pas là ». Si je dis peut-être certains noms de personnes, vous dites « Ah, moi je veux bien être ami, je veux bien être avec telle ou telle personne, mais un tel, il ne faut même pas m'en parler parce qu'il s'est passé ça, il a fait ça, il s'est passé ça, il s'est... » Pour les disciples, Jérusalem, c'est un nom qui est chargé d'histoire, d'une histoire douloureuse. C'est un nom qui évoque de mauvais souvenirs et qui va, comme pour nous sur certains noms, pour eux, Jérusalem, ça va réveiller certaines douleurs. Jérusalem doit parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est un lieu d'échec, c'est le lieu, je vais vous montrer les différents points, c'est le lieu où ils ont connu tous d'une façon ou d'une autre l'échec, c'est un lieu qui doit devenir un lieu de victoire. Et Dieu, parce qu'il est logique, structuré, organisé, Dieu ne veut pas que tu ailles n'importe où pour faire n'importe quoi. Dieu veut d'abord que tu sois victorieux là où tu as échoué. C'est une bonne nouvelle, hein ? Il y a des chrétiens, ils aimeraient qu'on leur dise « C'est pas grave, laisse tomber, ne règle rien, continue à disputer avec lui, continue à disputer avec elle, change de travail, change de femme, change de ville, change de... Vas-y, change tout, c'est pas de ta faute, mon pauvre petit, t'es tellement mignon, t'es tellement gentil, ils t'ont pas compris. Vas-y, va ailleurs, va en Samarie. » L'Esprit de Dieu dit « Non. Là où tu as échoué, là où on t'a blessé, là où on t'a humilié, là où on t'a fait du mal, là où il y a eu des préjugés, là où il y a eu de l'opposition, là où on t'a détruit, là, moi, je vais te rendre vainqueur. Et je vais prouver qu'il y a une dimension de vie bien plus forte qui va te rendre vainqueur sur tout ce qui t'avait défait jusqu'à ce jour. » C'est ça le sens de la vie chrétienne. Parce que s'il suffisait de changer de ville et de fuir, je vois pas pourquoi on a besoin de Jésus, hein. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une vie à... contre-courant. C'est une vie plus grande, c'est une vie plus puissante, c'est une vie d'une autre dimension. Et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, vous n'y arriverez pas par vous-même, ça on le sait. Ah, quand je le vois lui, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Ah, quand je la vois elle, c'est plus fort que moi, il se passe un truc en moi. Ah, quand on me dit la ville ou l'église un tel, ah, c'est plus fort que moi. Ah, quand on me parle du pasteur un tel, ah, c'est fini, je suis bloqué, me demandez plus rien, j'ai envie de m'enfuir à Tahiti. Le problème, c'est que tout ce que tu n'as pas réglé ici, tu l'emmèneras à Tahiti. Parce que c'est là que ça se passe. Et tout ce qu'il y a là, tu l'emmèneras partout avec toi. Alors Jésus dit, non, oui, j'ai un plan pour vous. Oui, on va faire de grandes choses. Mais la dimension du Saint-Esprit va d'abord servir à vous rendre vainqueur là où vous avez échoué. C'est d'abord Jérusalem. Comment est-ce que tu veux remporter des victoires à l'extérieur si tu n'as pas remporté de victoire à l'intérieur ? Comment est-ce que tu veux être crédible dans ta famille si toi, tu n'as pas remporté de victoire personnelle digne de ce nom ? Comment est-ce que tu veux être crédible sur ton lieu de travail si tu n'as pas remporté des victoires personnelles ? Il faut qu'en toi, on voit cette dimension de victoire. Alors, il faut d'abord être victorieux à l'intérieur, c'est ce que ça signifie. C'est comme si Jésus dit à son équipe, il leur dit « Vous allez d'abord être vainqueur à domicile, les gars ». D'abord, à l'intérieur, vous allez être vainqueur à domicile. Et ensuite, on verra pour l'extérieur. Justement, parce que Jérusalem, c'est justement parce que c'est le lieu de vos échecs. C'est le lieu de votre honte. C'est le lieu de vos blessures. C'est le lieu de vos incompréhensions. C'est le lieu où ça s'est effondré. Oui, mais Dieu était souverain, il était sur son trône. Et il savait très bien pourquoi il avait permis que ça s'effondrait. Parce qu'il faut que tu arrêtes de compter sur toi-même. Il faut que tu arrêtes de t'appuyer sur tes propres forces. Parce qu'il faut absolument que tu comptes sur lui et pas sur toi. Alors oui, il a permis que ça s'effondre. C'est le lieu de leur pire peine. C'est le lieu où ils ont eu peur comme jamais dans leur vie. C'est le lieu de leur désespoir, le lieu de leur doute. C'est le lieu où leur foi s'est effondrée. C'est le lieu où ils ont tous connu l'échec. C'est le lieu de leur pire souvenir. Et Jésus leur dit, vous allez recevoir la personne toute puissante du Saint-Esprit et il va vous rendre vainqueur justement dans tous les domaines où vous avez échoué. Ah ben moi, un Dieu comme ça, j'en veux lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça signifie encore pour ces noms, quelques noms qu'on a vus ici rapidement ? Pour Pierre, Pierre est cité dans cette liste. Pour Pierre, ça signifie victoire sur la peur et l'incapacité. C'est aussi victoire sur la présomption. On sait que Pierre se sentait très capable de suivre Jésus n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Pour lui, ça ne lui semblait pas un problème, mais il était tellement sûr qu'il valait mieux que les autres. Ça ne concerne personne ici, bien sûr. Personne ici n'a jamais pensé qu'il était mieux que les autres. Non, nous, on pense qu'ils sont juste moins bien. On ne s'élève pas, on les abaisse. C'est tellement plus spirituel. Pierre, il faut que tu sois victorieux parce que lorsque tu as renié Jésus, et tous d'une façon ou d'une autre, on l'a renié, c'est à Jérusalem que ça s'est passé. Il faut que tu sois vainqueur sur cette peur, parce que tu t'es cru malin, tu t'es cru capable, tu t'es aperçu que tu étais un couard, tu t'es aperçu que tu étais incapable, et devant une simple servante qui t'a dit « Mais toi, tu vas à l'église évangélique à Manosque, là, je te vois régulièrement. » Ah non, c'était pas moi. Non, je vais jamais à l'église évangélique. Non, c'était pas moi, non. Et quelle différence lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit, va enfin pouvoir même affronter une foule entière et apporter une parole de Dieu à une foule qui va les convaincre, qui va les toucher. Rempli du Saint-Esprit, sa parole va faire toute la différence. Et Pierre va expérimenter une authentique victoire sur la peur et sur l'incapacité. Avant la réception du Saint-Esprit, avant la Pentecôte, les disciples, je vous l'ai déjà dit, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont gentils, ils sont conviviaux, ils sont affectueux, ils font des agapes, ils font des tas de choses super chouettes, ils aiment bien être ensemble, enfin ils arrivent quand même à se disputer, mais ils le font quand même, et ils sont mignons, gentils, tout plein. Mais leur vie, malgré toute leur bonne volonté, la bonne volonté ne suffit pas, leur vie, sans l'Esprit de Dieu en eux, elle est marquée par l'échec et par l'incapacité. Et tant que ma vie n'est pas remplie du Saint-Esprit, je vivrai dans toutes sortes de prisons, toutes sortes d'échecs, toutes sortes d'incapacités, toutes sortes de limites, toutes sortes de défaillances, toutes sortes toujours retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés, dans les mêmes difficultés. Pierre, il faut enfin que tu sois rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va te rendre vainqueur sur tes pires peurs et sur ton incapacité. Là, quelqu'un devrait dire Amen. Ensuite, on a Jacques et Jean. Jacques et Jean, ils sont tout aussi prétentieux que Pierre ou les autres, évidemment. Jacques et Jean, c'est victoire sur des ambitions déçues. On se souvient de ce moment où ça se passe à Jérusalem, vous ferez attention dans les textes, de ce moment où Jacques et Jean viennent voir Jésus puis leur disent « Tu sais, Seigneur, nous, on n'est pas des gars exigeants, mais comme les autres sont tellement moins bien, ce qui serait vraiment super, c'est que quand tu régneras dans la gloire, nous, on voudrait être un à ta droite, un à ta gauche. Rien que ça, hein. Juste ça, Seigneur. Bien sûr, on ne demande pas ta place, puisque bon, c'est toi le Seigneur. On n'ira pas jusque-là. On est humble. Nous, on est humble, Seigneur. On sait être à notre place. Donc, juste un à ta droite, un à ta gauche. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? C'est faisable? Et le Seigneur leur dit, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne savez pas à quel point je vais être abaissé pour avoir la place que je vais occuper dans le ciel. Et vous... Un jour, vous boirez cette coupe que je bois. Un jour, vous serez abaissé. Un jour, vous allez finir en martyr pour moi. Un jour, vous aurez cette capacité. Mais pour l'instant, vous n'avez pas cette capacité d'être abaissé à ce point-là. Et en plus, de toute façon, ce n'est pas moi qui décide des places dans le ciel, c'est le Père. Donc, il faut arrêter tout de suite avec ça. Et là, Jacques et Jean disent, si nous le pouvons. Marc 10, 38. Vous lirez, Marc 10, 38. Ils ont dit, mais Seigneur, oui, nous pouvons boire, nous pouvons te suivre. Pour Jacques et Jean, après avoir renié Jésus, j'imagine que ça a dû revenir dans leur tête, dans leur pensée. Et quand Jésus leur dit, vous savez, maintenant vous allez être témoins à Jérusalem. Waouh ! Oh, Jérusalem, c'est tout un monde de rêves et d'ambitions qui s'écroule pour eux. C'est une victoire sur la prétention, c'est une victoire sur la valorisation de soi. Il n'y a pas des moments où... dans nos églises, dans nos secteurs d'activité, dans nos secteurs de responsabilité, on a nourri des ambitions quand même. Il n'y a pas des moments où, avec nos enfants, on a nourri des ambitions. Quand ils ont été adolescents, ils ont pris tes rêves, ils te les ont remballés, et puis ils t'ont calmé direct tes enfants. Parce que moi, je ne veux pas que mes enfants ils soient comme lui ou elle ou les enfants de l'autre. Merci, on a vu ce que ça a donné. Il y a tellement de moments où on a eu des ambitions inavouées. Victoire sur nos ambitions. C'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu permet qu'on passe tous par l'échec, d'une façon ou d'une autre. Parce que les ambitions et les rêves, ça ne fait pas l'œuvre de Dieu, hein. Et puis Jacques et Jean, alors eux, c'est pas que je les aime pas, mais j'ai trouvé autre chose, ils ont un double problème. C'est, bon, les autres aussi, hein. C'est qu'ils ont un esprit de jugement Ils sont très forts pour juger, ils sont très forts pour statuer sur le cas des autres et dire « lui, il est comme ça, eux, ils ne sont pas comme ça, lui, ça vaut le coup d'être patient, elle, il ne faut pas patienter avec elle, et puis lui, ben, je l'aime bien, non mais elle, de toute façon, on ne fera jamais rien avec ça. » Et quand les Samaritains ont refusé que les disciples entrent en Samarie pour annoncer l'évangile, eh bien à ce moment-là, Jacques et Jean ont dit « Seigneur, tu, si tu veux, tu sais, on ne peut rien faire avec des gens comme ça. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas commander au feu du ciel de descendre puis on va les consumer ?» Ben oui, c'est bien, vas-y, détruis tous les pécheurs, comme ça Jésus il vient, il n'y a plus rien à sauver. Mais bravo. L'esprit de jugement, nous non, bien sûr, non. Ailleurs, dans d'autres églises, j'ai constaté ça, mais bah, non. Il y a dans d'autres églises, j'ai vu des gens, j'étais toujours surpris de voir avec quelle facilité ils arrivaient à juger, c'est-à-dire à statuer sur les autres. Prononcer des jugements. Ah, il est comme ci, il est comme ça. Bam, bam. Et puis, à force de paroles, on encadre les gens, on les enferme dans des prisons de paroles. Et puis, ben, au final, puis après, on se dit au final, bon, pff, mais il n'y a rien à faire avec elle. Mais il n'y a rien à faire avec des gens comme ça. On a jugé. On a statué. Et moi, ça ne m'aide pas toujours cette façon. Ah, vous êtes content d'être venu ce matin. Je vois qu'il y en a. Ils, ouais, ils sont super contents. Je suis surpris de voir avec quelle facilité on est prêt à statuer sur le cas des autres, mais quand il s'agit de nous, nous sommes aveugles, comme par enchantement. Ben nous, on ne voit plus. Ben non, c'est Jacques et Jean, il faut qu'ils soient victorieux sur cet esprit de jugement. Et c'est pour ça que le Seigneur permet qu'ils se plantent à Jérusalem et qu'ils reçoivent l'esprit à Jérusalem et qu'ensuite ils vivent dans une dimension de grâce parce que, je ne l'ai pas dit pour Pierre mais c'est évident depuis le temps que j'en parle, l'esprit de Dieu est un esprit de hardiesse, un esprit de force. Pour Jacques et Jean, l'esprit de Dieu c'est l'esprit de la grâce, c'est un esprit d'humilité, c'est un esprit de compassion. J'ai compassion de l'autre. C'est facile d'avoir compassion de l'un. Il faut avoir compassion de l'autre. Et ça, la réception du Saint-Esprit va leur donner cette dimension de vie. Ensuite, encore un autre problème qui nous ne nous concerne absolument pas, on n'a jamais ce genre de souci, c'est que André, lui, ça s'est passé à Jérusalem. André, il a le syndrome, j'appelle ça le syndrome du trop petit. Il a ce syndrome de l'insuffisance. Lorsque Jésus va multiplier... Il va multiplier les pains et les poissons pour la foule, vous connaissez ce récit. Il y a cet état d'esprit d'André qui ressort. On a tous le même, on est tous dépassés par l'œuvre de Dieu, par les multitudes et par les besoins qui sont là. Et quand un garçon apporte les 5 pains et les 2 poissons à Jésus dans la foi, le gars qui est disciple depuis un certain temps, qui a déjà vu plein de miracles, au lieu de dire « Ah, moi j'ai un Dieu de miracles, je sais que le Seigneur il va pouvoir faire quelque chose », il regarde les pains et les poissons, puis il dit « Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que si peu pour autant de gens ? Il a un état d'esprit, il a une mentalité, c'est un syndrome qui enferme les chrétiens, qu'on voit toujours tout trop petit. Ça ne marchera pas, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, j'en ai pas assez, elle n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, comment on va y arriver ? C'est pas avec ça qu'on va le faire, et puis là c'est pas assez bien, et là c'est pas assez comme ci, ah vraiment ça ne marche pas, ah on n'est pas assez nombreux, ah comment on fait ci, comment on fait ça ? Soit on marche par la vue, ou alors on marche par vision, avec une vue sur l'invisible. C'est-à-dire, c'est ce qui lui manquait ce jour-là, c'est qu'il lui fallait la vision de ce que Dieu voulait et pouvait faire, la vision de ce que Jésus était capable de faire. Et il a fallu que, par le Saint-Esprit, l'Esprit en lui lui communique et lui donne ses visions pour le sortir de sa petite vie étriquée, pour le sortir de ses 4 barreaux de prison, de sa vision inexistante dans laquelle ma vie... ben, j'ai pas de ressources. André, il a un gros problème. Il est enfermé là-dedans. Il a le syndrome du trop petit. Alors, est-ce que nous sommes trop petits ? Oui. Il y a des gens qui disent « Ah, mais je suis vraiment pas capable. » Puis inconsciemment, ils attendent qu'on leur dise « Mais si, tu sais. » Quand les gens ils me disent « Ah, je suis vraiment pas capable. » Je dis « Ah, ben ça y est, tu viens de t'en apercevoir. » « Ah, ben voilà. » Tant qu'on croit être quelque chose, frères et sœurs, ça ne marche pas. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous, par nous. Alors André, lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a été baptisé, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a expérimenté une authentique victoire sur cette mentalité qui l'enfermait, qui le maintenait toujours dans l'incapacité, le syndrome du trop petit. Après, on a Philippe. Ça fait un moment qu'il est à côté de Jésus, ça fait un moment que Jésus lui parle, ça fait un moment que Jésus l'enseigne. Il entend, pas un pasteur, il entend Jésus lui-même. L'enseignement ne sort pas par la bouche d'un pasteur, d'un homme, ça sort de la bouche de Jésus lui-même. La parole incarnée, la parole faite chair, Jésus lui-même. Je ne sais pas si on peut rêver mieux comme prédicateur. Il entend Jésus pendant 3 ans et demi. En plus de la parole, il voit les confirmations par les miracles. Et avec Jésus, il voit, il vit des choses extraordinaires. Et le jour où, 3 ans et demi après, Jésus annonce qu'il va repartir au ciel, 3 ans après, 3 ans enseigné par le meilleur des meilleurs, Philippe, il regarde Jésus, puis il dit « Ouais, ben, montre-nous le Père, et puis cela nous suffit. » Et je paraphrase, Jésus lui dit, mais ça fait tellement d'années, Philippe, que tu viens à l'église évangélique, ça fait tellement d'années que tu entends la parole, ça fait tellement d'années que tu lis, ça fait... Et tu n'as toujours pas compris ? Comment est-ce que vous voulez comprendre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu qui l'a inspirée ? Il faut que Philippe passe par la chambre haute et qu'il reçoive l'Esprit qui va lui apporter victoire sur l'ignorance et sur l'incompréhension. Parce qu'on l'a entendu ce matin, Philippe à sa façon, on l'a entendu dans le don spirituel, Philippe il est comme spectateur. Les choses, les enseignements défilent, ça rentre par là, ça sort par là. C'est intéressant. Oui, il y a quand même quelque chose qui n'est pas comme ailleurs. Ouais, c'est pas mal. Mais pour moi, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il voit des choses, il est spectateur de ce que Jésus fait. Il est toujours défait, il est toujours incapable. Il comprend jamais trop ce qui se passe. Et il voit que Jésus fait des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est que c'est toujours à l'extérieur de lui. Comme un film, c'est comme un film qui défile devant lui. Des fois j'ai peur, je me dis j'espère que les chrétiens, ils ne sont pas venus voir un film le dimanche matin, ne soyez pas spectateurs, et que des fois on regarde le spectacle évangélique. Comme un spectacle, ça défile devant ses yeux, mais la vérité c'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas qu'il doit avoir une dimension d'implication. C'est comme la vitrine, il voit une vitrine, il voit des choses extraordinaires, il entend des choses extraordinaires, il voit des choses belles, mais il y a comme une espèce de vitrine, et il y a un double vitrage blindé, c'est difficile, il essaie de clencher la porte pour entrer, il n'y a rien qui se passe. Entre ce qu'il voit, ce qu'il entend et lui, il y a un gouffre, il y a un fossé, il y a un mur, il y a une vitre blindée. Il voit des choses extraordinaires, mais la vérité, c'est que il ne comprend pas. L'Esprit de Dieu est un esprit de révélation, dit la parole. C'est un esprit de révélation, c'est un esprit de connaissance. Esprit de connaissance de l'Éternel. L'Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Personne ne peut sonder Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin de lui. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et il révèle les profondeurs de Dieu à ceux qui le laissent vivre en lui. Amen. L'Esprit de connaissance de l'Éternel, esprit de révélation. Et il est dit aussi, Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille parce que quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra, mais lui, le Saint-Esprit, il va prendre ce qui est à moi et il va vous le communiquer. Et jusque-là, il y avait un fossé, il y avait une barrière, une vitre, un mur. Il se disait, mais c'est tellement super, Seigneur, cette vie que tu vis, elle est tellement géniale, mais on ne la comprend pas en vérité, puis on ne peut même pas se l'approprier. Et nous, on est toujours de l'autre côté de la vitre, on est comme ça, on est isolé, on est toujours perdu, on est toujours dans l'incompréhension, on est toujours incapable, on est toujours en train de se disputer, on est toujours trop petit, ça ne va jamais. Et Jésus dit, c'est pour ça qu'il faut que je parte. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme cette vitre qui va se briser. Le fossé va être comblé. Et il va prendre ce qui est à moi et il va me le communiquer. Frères et sœurs, je vous aime de tout mon cœur. Vous ne pouvez pas comprendre la vie chrétienne si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Thomas, il est cité. Parce que Thomas, qui a dit, « Moi, si je ne mets pas mes mains dans les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de son côté, je ne croirai pas. Alors que tous confirmaient qu'ils avaient vu le Seigneur, qu'ils avaient expérimenté et vu le Seigneur. Thomas dit, moi, de toute façon, j'y crois pas. Et ça se passe aussi à Jérusalem. Pour Thomas, être rempli de la personne toute puissante et glorieuse du Saint-Esprit et être témoin à Jérusalem, ça signifie que Thomas, tu vas être vainqueur sur ton incrédulité. Et je vais vous parler aussi du défaitisme. Être capable de croire à l'impossible. On n'a pas de mal à croire. Bien sûr, ce n'est pas difficile pour nous de croire. Il n'y a pas d'incrédulité dans nos vies. L'Esprit amène une dimension de foi. L'Esprit Tout-Puissant amène une dimension de conviction. Je ne peux pas rentrer dans une dimension de foi authentique si je n'ai pas la dimension d'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit est un esprit de connaissance de l'Éternel. L'Esprit est un esprit de foi. Amen. Et il va falloir aussi être vainqueur sur le défaitisme. Alors ça aussi c'est un autre morceau. Ça concerne aussi Thomas, cette espèce de défaitisme et de fatalisme qui lui colle à la peau. Lorsque Jésus apprend que son ami Lazare est mort, enfin qu'il est malade, Jésus ne bouge pas, Lazare va mourir parce que Dieu a un autre plan, et Jésus ne bouge pas. Puis au bout d'un moment, alors que Lazare est mort, Jésus dit à ses disciples, « Ok, c'est bon, maintenant on y va, maintenant on va retourner en Judée. » Jérusalem est en Judée. Et ils sont sur le chemin, Béthanie est pas loin de Jérusalem, ils sont sur le chemin. Et à ce moment-là, les disciples disent, « Mais enfin Seigneur, il n'y a pas longtemps, les Juifs voulaient te lapider en Judée, ça sent la mort pour toi là-bas, et pour nous aussi, et du coup, toi maintenant, tu ne trouves rien de mieux à faire que de retourner en Judée. » Et là, Thomas, dans toute sa splendeur, c'est lui qui dit « Ah ben, c'est pas grave les gars, je paraphrase, allons-y aussi, de toute façon on va mourir avec lui, et puis voilà. » On est fichu, on va mourir, ça marchera pas, on n'y arrivera pas, etc., etc. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli d'un esprit de foi, et être rempli d'un esprit de victoire, merci pour le chant, un esprit de victoire et pas du défaitisme. Et puis ensuite, je termine avec la mère de Jésus, puisqu'elle est citée aussi au verset 14. Marie, Jérusalem, elle aussi, ça lui laisse quand même vraiment de très 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 mauvais souvenirs, puisque c'est à Jérusalem que Jésus, son fils, a été crucifié. C'est là qu'elle a vu son fils mourir, couronné d'épines, maltraité injustement. Et c'est le lieu, c'est l'endroit où elle a perdu l'être le plus cher. Quand on perd un être cher, frères et sœurs, s'il y a bien un endroit où on a du mal à retourner, s'il y a un endroit où il ne faut pas nous dire d'aller, c'est l'endroit où on a perdu cet être-là. Et c'est normal, c'est complètement humain. On ne veut pas retourner à cet endroit-là, c'est super dur. Et pour Marie, Jérusalem, c'est le lieu où elle avait reçu la prophétie. C'est là que Siméon, lorsque Marie, vous relirez dans les évangiles, lorsque Joseph et Marie ont apporté le bébé Jésus devant Siméon, Siméon, le huitième jour, Siméon a prophétisé, Luc 2, 35, il a prophétisé, il a dit à Marie, une épée te transpercera l'âme. Et cette prophétie, elle concerne directement la crucifixion, la mort de Jésus. À Jérusalem, on lui a dit, alors qu'elle savait par révélation qu'elle avait donné naissance au sauveur de l'humanité, Siméon lui dit, une épée va te transpercer l'âme et on va t'enlever ce que tu as de plus cher. Mais quand en plus, elle l'a vu de ses propres yeux mourir, ça se passe au Mont Golgotha, ça se passe à Jérusalem. Elle a vu son fils souffrir, pardon, le supplice ultime de la croix. Elle l'a perdu, elle l'a vu mourir. Et là, Jésus lui dit, « Tu vas retourner à Jérusalem. » Un lieu chargé de souvenirs douloureux. Alors on va dire, « Oui, mais Jésus est ressuscité, tout va bien. » Oui, Jésus est ressuscité, mais il va repartir dans la gloire. Et elle, elle va de nouveau perdre son fils, sous une autre forme, mais elle va de nouveau le perdre. Et c'est ce qui m'amène à dire, frères et sœurs, que dans nos vies, nous avons les uns et les autres différentes formes de deuil. Nous n'avons pas que le deuil d'un être cher. Il y a d'autres formes de deuil. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais on peut perdre tellement de choses dans notre vie, dans votre vie, dans vos sphères d'existence, à différents niveaux. Vous avez essuyé des pertes à différents degrés. Parfois, on est obligé de faire le deuil d'un ami parce qu'on ne le verra plus. Peut-être qu'il vous a craché au visage parce que vous êtes devenu chrétien. Je ne sais pas, il y a des tas de domaines. Vous êtes peut-être obligé de faire le deuil d'une situation matérielle, financière. Parfois, on fait le deuil d'une situation physique. Ben oui, j'ai 80 ans. J'ai dû faire le deuil de mes 20 ans. Et c'est pas drôle du tout parce que c'est dur. Et on a toutes sortes, frères et sœurs, dans la vie, on essuie toutes sortes de pertes. Et on vit toutes sortes de deuils, de séparations. Et là, c'est comme si Jésus disait à sa mère, comme s'il disait à Marie, il faut absolument que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit, cette dunamis, la capacité surnaturelle de l'Esprit de Dieu en toi qui va te permettre de triompher de tes pires blessures. Tous tes deuils, quelles que soient leurs formes, quelles que soient tes pertes, quelles que soient les blessures ou les coups que tu as pris, les blessures qu'on t'a infligées, qui devraient, humainement parlant, te maintenir à terre et faire en sorte que ta vie elle soit finie. T'es vivant physiquement. T'es vivant physiquement. Mais intérieurement, t'es aussi mort que les gens qui sont partis. L'Esprit de Dieu est un esprit de résurrection, un esprit de vie. Pas seulement pour ressusciter mon corps au dernier jour pour aller dans la gloire, mais pour ressusciter en moi tout ce qui est mort avec les gens que j'ai perdus. Parce que lorsque je perds dans différents domaines, il y a des parties de mon âme, imaginez des lambeaux, il y a des parties de moi qui partent avec les gens. Et à l'intérieur, alors que je peux être vivant physiquement, je peux être intérieurement mort, à moitié mort, à demi mort, je ne sais pas. Mais la mort est là. Et je dis au nom de Jésus, ce n'est pas la mort qui doit gagner, c'est la résurrection, c'est l'esprit de vie. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour se plaindre, il y a un temps pour tout, mais il y a un temps pour ressusciter par le Saint-Esprit. Et ça, ça concerne plusieurs ce matin, qui ont essuyé des pertes. Et ça, vous savez qu'il y a des parties, j'insiste, vous savez qu'il y a des parties de vos âmes qui sont parties avec ceux que vous chérissiez, qu'ils soient partis physiquement ou autres, vous avez compris. Une maman peut voir une partie de son cœur partir avec son enfant à l'autre bout du monde lorsqu'il est parti rétrograde, quand il est devenu fou et qu'il a tout lâché. Et il y a une partie de la maman qui est morte quand son fils est parti. Et Jésus dit, ce n'est pas la mort qui doit triompher, c'est la résurrection. L'Esprit de Dieu est un esprit de résurrection, c'est un esprit de vie. Et il va te rendre vainqueur sur toutes tes blessures et sur tous tes deuils. Sur tes blessures parce qu'il est aussi cette huile dont la parole, le Saint-Esprit, est comparée à une huile, on en reparlera bientôt, le vent, l'huile, le feu, la colombe, etc. Il est comparé à de l'huile parce que cette huile, c'est une huile bienfaisante qui passe dans les recoins de mon cœur jusqu'aux parties les plus profondes de mon âme et puis qui va cicatriser ce qui n'a jamais pu être cicatrisé avec la thérapie, les machins, les bidules, les trucs, les années, les encouragements, les trucs, les machins, les prédications, les visites pastorales. Et à un moment, frères et sœurs, si on veut être victorieux sur nos blessures, il faut que l'huile de l'Esprit puisse couler dans nos cœurs et puis guérir tout ce qu'il y a à guérir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis que ça vaut vraiment la peine d'être rempli du Saint-Esprit. Pierre, victorieux sur toutes ses peurs et son incapacité. Jacques et Jean, victorieux sur leurs ambitions et leurs rêves déçus. Victorieux sur l'esprit de jugement. André, qui va recevoir une autre dimension, un autre esprit, pour être victorieux sur son syndrome du trop petit. Philippe, qui va avoir enfin la révélation, la connaissance de l'Éternel, la connaissance de cœur, victorieux sur l'ignorance et l'incompréhension. Thomas, victorieux sur ses incrédulités, sur son défaitisme, sur son fatalisme, et Marie, qui va être victorieuse sur toutes ses blessures et tous ses deuils. Vous avez deux possibilités, frères et sœurs. Soit vous êtes cette catégorie de disciples, lorsque Jésus est remonté au ciel, qui regardent le ciel, puis qui vont chercher des réponses. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça ? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ci ? Pourquoi Dieu a permis ça ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Vous êtes soit cette catégorie de chrétiens qui gardent les yeux au ciel, comme les disciples après l'ascension de Jésus, et qui cherchaient encore des réponses dans le ciel, ou alors vous êtes cette catégorie de chrétiens, vous devez retourner, vous devez être rempli de la personne et de la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est ce souffle, c'est ce vent de l'Esprit qui va ressusciter tout ce qui était mort en vous. C'est lui qui va vous sortir de vos misères, de votre incompréhension, c'est lui qui va vous sortir de toutes vos incapacités. Alors, au lieu de cogiter, au lieu de regarder, au lieu d'analyser, au lieu de regretter, au lieu de chercher des réponses, est-ce que je peux comprendre que le Saint-Esprit sait la réponse ? Le Saint-Esprit sait la réponse de Dieu à tout ça. Ne cherche pas des réponses. Le Saint-Esprit sait la réponse. Et si tu veux, si tu acceptes d'en être rempli, il va te conduire dans toutes ces dimensions de victoire. Mais il faut déjà que tu sois victorieux à l'intérieur avant de pouvoir être victorieux à l'extérieur, dans cet ordre-là. Ça, c'est ton cœur. C'est ta Jérusalem, c'est là qu'il faut que tu sois victorieux. Et pour le reste, Dieu s'en occupera après. On prie ?